Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Biro et la Magie Chimbila.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Une enveloppe de 300 millions de francs congolais destinée à la paye des enseignants des quelques localités dans la province de l'Équateur pour le mois d'octobre 2020 a pris feu avec la pirogue affectée par Caritas Développement de Mbandaka Bikoro. Des enquêtes ont été ouvertes. L'évêque du diocèse catholique de Boutembo-Béni s'inquiète de la recrudescence de l'insécurité dans la zone de Béni. Sikouli Paluku Melchizedek, qui appelle les autorités à respecter leur engagement, condamne aussi la profanation des objets sacrés de l'église du secteur Lissassa lors de l'attaque du village samedi par les ADEF. Notre invité, c'est le chef des bureaux de la MONUSCO Sud Kivu qui fait le point des activités menées par la MONUSCO dans la province en appui au gouvernement provincial et qui plaide également pour une intervention d'urgence en faveur des déplacés des Bijombo et des Mikenge. Vous suivrez Karna Soro avant la fin de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. À l'Équateur, une pirogue motorisée affrétée par la Caritas contenant une enveloppe de 300 millions de francs congolais a pris feu. L'annonce a été faite par la Caritas Développement de Mbandaka Bikoro. L'incendie a eu lieu hier mercredi pendant le transport de la cargaison de Mbandaka vers Lukolela. Les fonds étaient destinés à la paye des enseignants pour le mois d'octobre 2020. Une mission d'enquête a quitté Mbandaka ce jeudi matin pour les lieux de l'incendie. Plus de détails avec notre correspondant régional Paul Richard Malengela.
L'information a été livrée ce mercredi par le coordonnateur de la Caritas Développement du diocèse de Mbandaka Bikoro. L'abbé Louis Iyeli a indiqué que le fonds a été embarqué à bord d'une pirogue motorisée affrétée par la Caritas. Outre le conducteur et son assistant, il y avait aussi à bord 4 agents payeurs et 2 militaires qui sécurisaient le convoi. Les premières informations reçues par l'abbé coordinateur indiquent que la délégation venait de payer à Irebu et les campements environnants. Elle approchait la localité d'Engombe sous le fleuve lorsque s'est déclaré l'incendie du moteur hors bord. La flamme s'est ensuite propagée sur les bidons d'essence de réserve, lesquels auraient explosé sous l'effet de la chaleur, ce qui aurait embrasé toute l'embarcation et consumé tous les biens, y compris les sacs contenant les billets précieux, estimés à environ 300 millions de francs congolais. Les passagers en débandade se sont jetés à l'eau avant d'être repêchés par des riverains. Jusque-là, la cause de l'incendie n'est pas encore élucidée, a dit le prêtre. Il s'est rendu ce matin sur le lieu de l'accident avec un autre agent de la Caritas et un officier de police judiciaire en vue d'une enquête préliminaire. Entre-temps, la question se pose sur le sort des enseignants de l'Ukolela qui attendaient leur salaire du mois d'octobre dernier. Bandaka, Paul Chamalengue, la Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la recrudescence de l'insécurité dans la zone de Béni, qui est au plus haut niveau l'évêque du diocèse catholique de Boutembo-Béni. Sikouli Paluku Melchizedek condamne la profanation des objets sacrés de l'église du secteur Lissassa lors de l'attaque du village samedi par les ADEF. Ces pasteurs invitent les autorités à respecter leurs promesses pour sécuriser et à la population de s'abstenir des conflits de tout genre dans leur milieu respectif et de ne jamais conjuguer avec l'ennemi. Gulen Kassassia pour les détails.
De retour de Kinshasa, où il a pris part à la 57e assemblée plénière de la conférence épiscopale, l'évêque du diocèse catholique de Boutembo-Béni s'inquiète de la recrudescence des tueries kidnapping en territoire de Béni. Dans un entretien avec la presse du diocèse, Paluku Melchizedek fustige les silences honteux doublés d'une indifférence des autorités compétentes. Ce pasteur appelle les autorités à être plus réalistes.
Il faut compter que nous sommes en insécurité depuis plus d'une décennie. Ça se passe dans un silence indifférent. Quand on est autorité politique, on dit oui, nous comprenons, nous allons essayer de mettre fin à cela. Mais nous voulons qu'on fasse des promesses réalisables. Autrement, il vaudrait mieux se taire.
Revenons sur les récentes tueries à Lissassa de samedi dernier. L'évêque condamne les assaillants qui ont profané les objets sacrés de l'église du secteur portant les mêmes noms.
Ce qu'on considère comme sacré doit être respecté. Et donc ils ne doivent pas commettre de profanation parce que ce qu'ils font, ce n'est pas digne de quelqu'un qui a encore une conscience.
Pendant ces temps, le pasteur de Boutembo-Béni exhorte la population à ne jamais conjuguer avec l'ennemi, mais de rester en éveil en dénonçant tout mouvement suspect. Béni, Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Et parlons encore insécurité au Nord Kivu avec ses regains de violence et des meurtres à Goma. Une énième personne a été tuée et deux autres blessées par balle la nuit de mercredi à ce jeudi dans la période. périphérie de la ville de Goma. Les sources administratives locales affirment que deux des victimes sont issues de la même famille. La troisième victime, un enfant, a été blessé par un élément de l'ordre en état d'ébriété. Bernard Nyangi pour les détails.
Le premier incident est survenu dans le village Ngangi, en territoire de Nyiragongo, dans la périphérie nord du quartier Majengo de la ville de Goma. Des sources sur place précisent que c'est à 19h locales que des bandits armés ont fait irruption dans la famille d'un couple d'échangeurs de monnaie. Sans rien dérober, les bandits ont tiré sur les occupants. Le père de la famille, âgé de 40 ans, est mort dans un hôpital de la ville de Goma suite à ses blessures. Son enfant de 10 ans, qui a reçu une balle dans la jambe, poursuit encore des soins à l'hôpital. Le deuxième incident s'est passé dans le quartier Lac Vert, dans l'extrême ouest de la ville de Goma, par un élément de la force de sécurité commis à la garde d'une station-service. Il aurait tiré sur un enfant de 3 ans qui fut blessé au pied. Les sources administratives locales sont formelles. L'auteur du tir serait aussi en état d'ébriété. La balle serait partie par inadvertance sur la victime. Pour les acteurs de la société civile urbaine de Goma et dans le territoire d'Ingragongo, ce regain de la violence est devenu une préoccupation. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Et au sud Kivu voisin, les acteurs de la société civile dénoncent des cas de recrutement forcé des jeunes dans les différents groupes armés actifs dans les hauts plateaux de Fizi et Uvira. Le président de la société civile de Masango, Enoch Moholeza, affirme que ces recrutements se fait aussi bien dans le groupe Tuiguaneo que celui de Mai Mai pour des objectifs non encore bien élucidés. Le dernier cas en date remonte au dimanche dernier au village Kalingi, en territoire de Fizi, où certains jeunes appartenant à une communauté locale ont subi des travaux forcés pour avoir refusé de se faire enrôler dans le groupe Tuiguaneo. Fiston Goma.
Deux jeunes gens de près de 20 ans d'âge ont passé deux jours de travaux forcés et de réclusion dimanche dernier à Kalingi. Les éléments tuiguaneo voulaient les enrôler par force à rejoindre le groupe à Kamombo. Selon d'autres sources locales contactées à Minembwe, une cinquantaine de jeunes sont déjà recrutés et formés à Kalingi pour attaquer le village du secteur de Lulenge dans les prochains jours. Des notables de Minembwe Centre ont exprimé leur inquiétude hier sur cette situation à la MONUSCO à travers la section des affaires civiles. Ils ont appelé la mission onusienne de sensibiliser la communauté locale afin d'éviter ces phénomènes de recrutement forcé. Contacté à ce sujet, un des responsables du groupe Tuiguaneo a rejeté en bloc ces allégations. Il accuse par contre les Mai Mai de recruter et de se concentrer pour lancer les attaques sur plusieurs villages dans la région. Mardi dernier, des soldats de FRDC en patrouille ont appréhendé deux miliciens Mai Mai du groupe Bilozebi Chambouke en provenance de Burembo dans les territoires de Fizi. Ils sensibilisaient les jeunes à adhérer à leur mouvement dans la région. Les porte-parole de l'armée au sud du sud Kivu précisent que l'armée est informée depuis longtemps de ces recrutements. Le commandant secteur opérationnel Sokola 2, le général Gabi Boswane, relayé par son porte-parole, appelle les parents de sensibiliser leurs jeunes à éviter ces recrutements. D'Ouvira Fiston Mamayaba, la Radio Kapi.
Restons encore au sud Kivu, la MONUSCO lance un appel au gouvernement et autres humanitaires pour une assistance d'urgence en faveur des déplacés des Bijombo et des Mikenge. Plus de 10 000 personnes qui traversent une situation déplorable, mais qui ont besoin de retourner et reprendre la vie normale dans leur milieu respectif. Le chef des bureaux de la MONUSCO au sud Kivu l'a dit ce mercredi devant la presse de Bukavu. Les propos de Karnasoro sont recueillis par Emmanuel Elamejoua Kabedi.
La situation est critique. Les conditions de vie de ces populations sont extrêmement difficiles. C'est une zone qui connaît beaucoup d'intempéries naturelles. Il pleut énormément. La nuit, les températures descendent jusqu'à 7 degrés. Nous avons autour de la base de Bijombo autour de 7 à 8 000 personnes, dont presque 4 000 enfants. Nous avons autour de la base de Mikenge autour de 3 000 personnes aussi. Mais je voudrais vraiment demander ici à l'ensemble des autorités provinciales, locales, régionales de se mobiliser pour apporter une bouffée d'air à cette population, pour qu'elle puisse retourner vers ses champs pour pouvoir vivre en paix. Il faut vraiment que tous les efforts soient mis en œuvre en appui donc à ce que la MONUSCO fait. Il faut vraiment que ces populations puissent reprendre leur vie normale. La situation est extrêmement difficile. Toutes les écoles ont été brûlées dans la zone. Les centres de santé aussi ont été incendiés. Donc toute l'infrastructure sociale de base n'existe plus.
Ce journal se poursuit ici à Kinshasa avec les dossiers politiques concernant les consultations. Monseigneur Tarsis Tshibangu appelle tous les Congolais à répondre à une union sacrée pour affermir les institutions de la RDC et l'unité nationale. Il a dit ce jeudi à l'issue de l'audience des consultations du président de la République au Palais de la Nation. L'évêque Mérite de Mbujimayi a été reçu en sa qualité de président du conseil d'administration des universités et instituts supérieurs de la RDC. Et il s'est fait accompagner de quelques professeurs d'université, dont le recteur de l'université de Lubumbashi. Par ailleurs, l'évêque émérite a informé le chef de l'État de ses deux célébrations jubilaires prochaines, académiques et épiscopales à 87 ans d'âge. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
J'ai exprimé au chef de l'État mon appréciation d'ensemble sur la teneur et les visées importante de son message du 23 octobre. Face à l'état de la situation telle qu'elle se présente et est analysée en ce moment, il s'avère qu'il y a lieu que toute la communauté nationale de notre pays réponde à l'appel pour réaliser effectivement une union sacrée de tous les Congolais pour l'affermissement du fonctionnement régulier et harmonieux des institutions nationales, union sacrée de toute la communauté nationale pour renforcer et consolider la conscience vive de l'unité nationale et en même temps préserver et défendre toujours l'intégrité territoriale de notre pays.
À propos de ces consultations menées par le chef de l'État, Dorothée Gizenga, leader du parti lumumbiste Unifié Palou, membre du Front commun pour le Congo, FCC, dit ne trouver aucun inconvénient de participer à ces pourparlers en tant que personnalité politique. Tout en réitérant son adhésion au FCC, elle estime que le plus important est de contribuer à la reconstruction du pays. Elle a fait cette déclaration en marge des discussions avec les militants de son parti sur la réunification des cadres du Palou en désaccord. Dorothée Gizenga est au micro de Paul Matendo.
En tant qu'une personnalité et autorité que je suis, j'aurais fait la consultation et ce n'est pas parce que je me dégage de notre groupement FCC, mais parce que nous voulons contribuer à la composition de la nation, aux enjeux de la nation, tout en respectant le fait que nous sommes d'un parti politique qui fait partie du groupement FCC. Nous avons tout le respect pour le président Kabila. Il s'est pas prononcé si les partis peuvent ou ne peuvent pas aller. En absence de cette non-autorisation, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas contribuer à quelque chose qui est commun aux deux. Le président Kabila comme le président Fatshi veulent le bien du pays. Donc, nous aussi, on veut contribuer au bien du pays. Je ne pense pas que les cadres du parti sont au courant si une invitation a été faite.
Autre chose à présent, il se tient depuis hier mercredi et ce jeudi à Kinshasa un atelier de mise à niveau et de lancement des équipes de renforcement des capacités municipales. Task Force Municipale prennent part à cette formation. Les équipes expertes en urbanisme et habitat venues des villes de Bukavu, Goma, Kikwit et Matadi. Ces équipes auront pour mission de pérenniser les ouvrages réhabilités et modernisés par la Banque mondiale dans le cadre du projet de développement urbain PDU. Michel Kifindangoy.
C'est une première dans l'histoire de la RDC que des équipes municipales soient mises en place afin d'assurer l'urbanisation des villes, explique le coordonnateur du PDU. Ce qui permettra désormais aux entités décentralisées du pays de voir leur développement se matérialiser, ajoute le ministre de la décentralisation, Azarias Roubérois.
Il faut que ces ouvrages, 10 ans après, 15 ans après, l'on dise, les maires qui ont travaillé et les équipes qui les ont accompagnés ont travaillé de façon consciencieuse. Voilà pourquoi les villes continuent à rayonner.
Le ministre de l'Urbanisme et Habitat espère qu'à travers ces équipes Task Force Municipale, les tâtonnements observés au sein des entités décentralisées disparaissent. Pius Mwabilou.
Depuis la décentralisation, on a tendance à tâtonner dans nos villes. Mon combat, c'est de faire de sorte que nos villes commencent à respirer pour que nous puissions faire face à toutes les catastrophes que nous enregistrons depuis des années et des années. Avec la formation de ces équipes de task force, je crois que nous allons aider nos dirigeants dans les mairies à pouvoir aller de l'avant.
Notez que ces équipes task force municipales auront pour mission de pérenniser les acquis du PDU, dont 20 avenues et 10 écoles modernisées dans 8 villes du pays, grâce au financement de la Banque mondiale.
Actualité internationale.
On ne connaît toujours pas le nom du prochain président des États-Unis d'Amérique. Joe Biden a cependant pris un net avance avec 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Notons que Donald Trump a remporté la Floride, un état clé, mais aussi le Texas, historiquement républicain, mais que les démocrates avaient l'espoir de décrocher. Biden, en revanche, s'est imposé en Arizona selon les chiffres de l'agence Associated Press, mais plusieurs médias américains restent prudents et estiment qu'il est encore trop tôt pour définitivement attribuer l'Arizona et ses 11 grands électeurs à Biden. Un état historiquement républicain, mais aussi dans le Wisconsin, sur les fils, un état qui avait voté Trump en 2016, tout comme le Michigan. Les résultats de deux états sont particulièrement attendus, la Pennsylvanie et le Nevada, où Biden est légèrement en avance et où une victoire lui donnerait les 6 derniers grands électeurs dont il a besoin pour remporter l'élection. Donald Trump a d'ores et déjà déclaré qu'il comptait saisir la Cour suprême pour arrêter les décomptes des voix. Une manœuvre qualifiée de scandaleuse par le camp démocrate.
L'invité.
Monsieur Karna Soro est le chef de bureau de la MONUSCO au Sud Kivu. Il fait le point des activités menées par la MONUSCO dans la province en appui au gouvernement provincial. Il plaide également pour une intervention d'urgence en faveur des déplacés des Bijombo et des Mikenge. Plus de 10 000 personnes qui traversent une situation déplorable et qui ont besoin de retourner, reprendre la vie normale dans leur milieu respectif. Le chef de bureau de la MONUSCO au Sud Kivu l'a dit ce mercredi devant la presse et il s'entretient ici avec Emmanuel et la Mijoua Kabedi.
Monsieur le chef de bureau de la MONUSCO, Karna Soro, bonjour.
Bonjour.
Et la MONUSCO serait intervenue pour la réhabilitation d'un pont sur la route nationale numéro 5 qui relie Bukavu à Uvira.
Merci Emmanuel. Nous avons été sollicités par les autorités et alertés par les communautés locales sur le fait que ce pont qui représente quand même une infrastructure de franchissement clé dans la mesure où il relie la partie nord du sud qui voit la partie sud donc était en train de s'écrouler et qu'il y avait des risques sérieux d'accident sur cette voie. Donc immédiatement, nous avons informé la hiérarchie de la MONUSCO qui nous a autorisé à déployer le contingent du génie chinois qui, donc, en 48 heures, a remis le pont en place, donc en renouvelant l'infrastructure de franchissement. Et aujourd'hui, ce pont est à nouveau fonctionnel.
La société civile qui a vu, qui apprécie, qui vous remercie, pense que la MONUSCO peut faire aussi de même dans d'autres territoires où il y a des mêmes problèmes de ponts ou de routes aussi. Est-ce que vous êtes prêts?
Mais nous sommes en train de travailler avec les autorités, toujours sur la RN5. Comme vous le savez, nous avons réhabilité les points de passage de Kala 1, 2 et 3. Et nous sommes en train de réhabiliter le pont de Runingu. Nous avons aussi fourni des containers qui ont été placés au niveau du pont de Sangué pour ceux qui voyagent sur la RN5. Donc nous avons travaillé avec les autorités pour renouveler ces différents points de passage sur la RN5. Nous avons aussi fait des évaluations, notamment sur la route de Punyakiri, qui est une route importante, comme vous le savez, pour la protection des populations civiles. Les FRDC et la MONUSCO ont besoin de pouvoir se déplacer dans ces zones-là pour protéger les populations civiles. Donc nous avons fait une évaluation sur cette route-là. Nous sommes en discussion avec les autorités pour un partage du travail, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette route.
Sur le plan sécuritaire, il y a eu des combats, groupes armés dans les hauts et moyens plateaux d'Ouvira et de Fizi. Des personnes se sont déplacées. Quelle est la situation? Il y a eu visite de plusieurs personnalités, aussi des Nations Unies dans la région. Quelle est la situation à ces jours?
Dans un premier temps, je voudrais dire que la situation est critique. Les conditions de vie de ces populations sont extrêmement difficiles. Comme vous le savez, c'est une zone qui connaît beaucoup d'intempéries naturelles. Il pleut énormément. La nuit, les températures descendent jusqu'à 7 degrés. Donc, les conditions de vie de ces populations sont extrêmement difficiles. Nous avons autour de la base de Bijombo autour de 7 à 8 000 personnes, dont presque 4 000 enfants. Nous avons autour de la base de Mikenge autour de 3 000 personnes aussi. Et nous travaillons ensemble avec les FRDC depuis quelque temps pour appuyer ces populations-là pour qu'elles puissent avoir accès à leur espace champêtre, pour qu'elles puissent faire de la production, pour se prendre en charge. Comme vous le savez, il est très difficile aussi d'accéder à cette zone avec de l'aide humanitaire, compte tenu de l'altitude. Mais je voudrais vraiment demander ici à l'ensemble des autorités provinciales, locales, régionales, de se mobiliser mobiliser pour apporter une bouffée d'air à cette population, pour qu'elle puisse retourner vers ses champs pour pouvoir vivre en paix. Il faut vraiment que tous les efforts soient mis en œuvre en appui donc à ce que la MONUSCO fait, et il faut vraiment que ces populations puissent reprendre leur vie normale. La situation est extrêmement difficile. Par ailleurs, comme vous le savez, la rentrée a commencé. Toutes les écoles ont été brûlées dans la zone. Les centres de santé aussi ont été incendiés. Donc, toute l'infrastructure sociale de base n'existe plus. Donc, il y a vraiment un travail à faire qui n'est pas seulement un travail militaire. Au-delà du travail militaire, il faut une mobilisation politique pour que chacun revienne à la raison et comprenne qu'il faut que la cohabitation pacifique prenne le pas sur les confrontations armées.
Il y a eu, le gouvernement congolais a fait signer des accords avec les groupes armés pour arrêter les combats dans la zone. Aujourd'hui, certains groupes armés observent ces accords-là. Il y en a d'autres qui continuent à s'entêter. Est-ce que vous avez des stratégies pédagogiques pour permettre à d'autres groupes armés de répondre, de poser les armes et libérer la zone?
Je voudrais réitérer ce que la représentante spéciale a dit. Parallèlement aux efforts de pacification et de médiation, il est important de rappeler à tous les acteurs qu'ils seront tenus pour responsables des violations des droits de l'homme qui sont commises dans ces endroits.
Monsieur le chef de bureau de la MONUSCO, Karna Soro, nous vous disons merci.
Willem Lungamba, mise en nom de ce journal coordonné par Noëlla Luzitu sous la supervision d'Axel Goncho. Vous pouvez le réécouter sur www.radiocapi.net. Et merci de votre fidélité à la fréquence de la paix.